Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue à cette table ronde durant laquelle nous allons nous intéresser à la question des troubles alimentaires et à notre relation à la nourriture. Nous allons chercher à comprendre pourquoi. Comment surtout nous sommes passés d'une société où on mourait de faim, il y a quelques siècles de ça, à une société dans laquelle on meurt de trop manger ou de mal manger. Donc autant dire tout de suite, ce sujet est vaste et complexe et nous pourrons pas en faire le tour de la question. Par contre, on va essayer d'en traiter quelques aspects en compagnie de trois invités qui sont donc à ma gauche Rachel Bauchet, qui est médecin psychiatre et chef de service au CHU de Nantes. Sa thèse de médecine porte sur les patients obèses et les troubles associés au cœur d'amaigrissement, et son mémoire de spécialité sur l'accompagnement psychologique des patients demandant de la chirurgie plastique et esthétique. En plus de ses activités de praticienne hospitalière, elle est très impliquée sur les terrains syndicaux et politiques, puisqu'elle est présidente de l'INPH, pardon, qui est la première intersyndicale des praticiens hospitaliers, et elle est également conseillère municipale de la ville de Nantes. C'est également notre puissance invitante, puisque c'est la présidente de la Cité des Congrès de Nantes. Donc on vous remercie beaucoup de nous accueillir. Nous avons également Yves Ménard, à sa gauche, qui est écrivain de science-fiction et de fantasy. Donc il nous vient directement du Canada et de l'Ontario, il me semble. Il écrit à la fois en français et en anglais. Il a écrit de nombreux romans et nouvelles, seul ou alors en collaboration avec d'autres grands noms de la littérature québécoise, canadienne, pardon, comme Elisabeth Van Harbour ou Jean-Louis Trudel. Et il a remporté de nombreux prix, donc je ne vais pas tous les citer, mais il y a entre autres les prix Aurora, Boréal et le Grand Prix de science-fiction et de fantastique québécois. Et enfin, la dernière intervenante est Sylvie Bérard, qui elle est docteur en sémiologie et écrivain de science-fiction. Elle a également écrit de nombreux romans et nouvelles, dont Terre des Autres, qui a remporté lui aussi le prix Boréal, le grand prix de la science-fiction et du fantastique québécois, et le prix des lecteurs de Radio-Canada. Donc, le XXe siècle a été un siècle de profond bouleversement du point de vue sanitaire. La démocratisation des vaccins et des antibiotiques a réduit drastiquement le nombre de morts et nous a permis de gagner quasiment 40 ans d'espérance de vie. De leur côté, les progrès de l'agronomie et l'industrialisation de la production alimentaire ont conduit à ce qu'aujourd'hui, la production dépasse largement nos besoins. La France, le Canada et de façon générale les pays occidentaux ne connaissent plus la famine ou les pénuries. En gros, pour simplifier, on meurt plus de faim dans nos pays. Par contre, il y a un phénomène nouveau qui est apparu et qui est assez problématique, c'est que depuis quelques années, on constate que l'espérance de vie n'augmente plus. Elle stagne et certains prédisent même qu'elle s'apprête à redescendre. Donc il y a de très nombreux facteurs à ça. Mais une des causes majeures qui est identifiée, c'est l'augmentation massive des maladies cardiovasculaires ou alors des maladies en fait, qui sont des comorbidités du surpoids. Typiquement le diabète de type 2, les syndromes métaboliques et ce genre de choses-là. En France, pour donner quelques statistiques, l'obésité est passée de moins de 6% dans les années 80 à 16%. Au Canada, on en a 25% de la population qui est touchée par l'obésité. Et aux États-Unis, c'est encore pire, on est presque à 40% de la population qui est touchée par l'obésité. Donc, ma première question serait pour Rachel Bauchet. Du point de vue médical, l'obésité n'est pas une maladie. C'est une accumulation de masse corporelle qui s'accompagne souvent de problèmes médicaux, mais pas toujours. Mais à partir de quand peut-on dire que pour un patient donné, l'obésité relève du trouble du comportement alimentaire ? Et qu'est-ce que c'est qu'un trouble du comportement alimentaire ?
Oui, c'est ça, disons. Bien, bonjour à tous. La question des troubles du comportement alimentaire, c'est une question majeure aujourd'hui. C'est une question majeure et très actuelle parce qu'aujourd'hui, nous sommes particulièrement centrés sur le poids et l'image de notre corps. C'est pour ça qu'on parle d'obèse, c'est-à-dire à quel moment on en parle. Et alors, pourquoi on en parle autant? C'est-à-dire, je dis, dans la salle, je m'adresse à vous, qui n'a pas fait un régime ou qui n'a pas songé même à le faire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne dans la salle à qui ça n'est arrivé. Et il faut le reconnaître, c'est lié aussi beaucoup aux valeurs véhiculées par la culture. Au niveau de la culture, il y a quand même ces valeurs qui sont la minceur et synonyme de beauté, jeunesse, de maîtrise de soi et même surtout de réussite sociale. Et cela, on le doit aussi, je dirais aussi, aux médias qui véhiculent ces valeurs et qui ne sont pas pour rien sur nos préoccupations qui sont obsédantes sur le poids. Alors, la question c'est, est-ce que faire des restrictions alimentaires, est-ce que ne pas être satisfait de son corps, est-ce que c'est un trouble du comportement alimentaire ? La réponse est non. On peut bien sûr ne pas être très satisfait de son corps, réduire l'alimentation, mais ça ne suffit pas à faire un diagnostic de troubles du comportement alimentaire. Ces troubles du comportement alimentaire sont tous, on va dire, l'expression d'un malaise profond qui traduit un rapport particulier, pathologique à la nourriture, qui concerne deux axes. D'une part, l'axe alimentaire et l'axe émotionnel. Je résume pour ne pas faire compliqué. L'axe alimentaire, ça veut dire que la relation au niveau de l'aliment, elle est perturbée par le sens. On n'est plus attentif à la sensation de faim, de satiété, mais on est davantage sur la préoccupation obsédante d'un nombre quantitatif d'aliments qu'on ingurgite ou pas. Et l'axe émotionnel aussi est très important parce qu'on est dans la maîtrise corporelle, la maîtrise de son poids, la maîtrise de ce qu'on va ingérer. Donc, ce qui fait qu'on a trois types de troubles du comportement alimentaire, on y reviendra après, c'est l'anorexie mentale, la boulimie et la boulimie berphagie. Si vous voulez, j'en parlerai peut-être un petit peu après pour ne pas prendre la parole trop longtemps dans un premier temps. Mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est que les troubles du comportement alimentaire sont l'expression d'un malaise profond qui ne traduit pas seulement la volonté de maigrir, mais c'est un malaise profond qui traduit ce rapport à la nourriture et qui est souvent déclenché par un traumatisme, on va dire souvent un traumatisme affectif, mais ça peut être aussi un traumatisme sexuel. On trouve chez ces sujets qui ont des troubles du comportement alimentaire, c'est des sujets qui sont fragiles, qui sont vulnérables et qui ont besoin de tout maîtriser, notamment l'alimentation, et qui ont une recherche de perfectionnisme. Une recherche de perfection, et donc il y a un réel malaise qui a besoin d'un suivi médical, parce que le pronostic est très sévère. Le pronostic en termes de décès est relativement lourd, et de suicide aussi. Donc il faut bien savoir différencier les trois pathologies: anorexie mentale, boulimie, boulimie berphagie, j'y reviendrai, mais on a associé aux troubles alimentaires des troubles de la personnalité, un malaise psychologique profond, un malaise dans la relation à la nourriture qui entraîne un malaise dans la relation à l'environnement.
Merci. Il y a une chose qui est très intéressante sur ce que vous avez cité, c'était justement la recherche de la maigreur. Ça pose une question. Je me suis posé la question justement de savoir si notre culture en fait est devenue toxique pour nous. C'est-à-dire, est-ce qu'elle construit une norme sociale qui nous handicape? Et là, pour le coup, je me tourne un peu vers nos amis canadiens. Peut-être que vous n'avez pas tout à fait la même culture que nous, même si elle est assez proche. La question, c'est cette norme culturelle, comment elle se construit et quel impact elle peut avoir?
Il y a un ensemble de facteurs qui vont jouer. Il y a une globalisation qui finit par avoir des effets pervers, entre autres parce que si on vit en petit groupe, c'est facile d'être le plus fort, ou la plus rusée, ou le plus gentil, ou quelque chose comme ça. Si vous vous comparez à 8 milliards d'individus, vous devez conclure que vous êtes laid, mou, stupide. Il y a un très gros effort parce qu'on est confronté à des modèles beaucoup plus d'extrêmes. Et non seulement il y a ce sentiment donc de ne pas être à la hauteur, ce qui peut être pénible, parce qu'on n'est rien, on ne compte pas, mais il y a aussi la construction médiatique qui se nourrit d'elle-même, où à un moment donné, on voit justement l'idéal de la maigreur qui est entretenu par les progrès en informatique pour le traitement d'image. Il y a une couverture de peut-être Vogue, je ne suis pas sûr, où on voyait les étapes, où on voit la couverture, mais on voit le mannequin à l'origine, et qu'elle a été allongée, mincie. Les transformations sont hallucinantes, mais on ne le remarque pas quand on voit la couverture, mais quand on voit le modèle original, mais elle ne ressemble pas du tout à la photo finale. Et ça, c'est terrible parce que c'est l'image des gens qu'on nous montre. Ils sont même pas vrais, mais on nous montre ça, puis il n'y a pas le contexte. Alors, on a tendance à dire, bien, je devrais ressembler à ça. Et évidemment, personne ne ressemble à ça, même la personne qu'on a prise en photo. Donc, je pense que les divers progrès, il y a des effets qu'on ne prévoyait pas, mais oui, qui se produisent. Mais dans un sens, toute culture est toxique. Toute culture est normalisante. Et puis, ceux et celles qui se démarquent de la norme vont souffrir.
Mais est-ce que je peux juste rajouter, c'est-à-dire justement par rapport à la norme, c'est la question d'une société des apparences. On est extrêmement soucieux de son apparence. Et je dirais, les médias, les magazines, la toile, disons Internet, disons, surenchérissent ça. Et donc, finalement, on est davantage son image, son enveloppe corporelle que soi-même. Et ça devient une obsession.
Et juste pour faire... Il me semble que pour l'anorexie, j'avais cru comprendre que les personnes qui souffraient justement d'anorexie avaient tendance à se voir plus grosses, mais vraiment beaucoup plus grosses qu'elles ne l'étaient. C'est vrai ou c'est...
Oui, alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux... Disons, l'anorexie, c'est avoir un comportement de restriction alimentaire. L'anorexie mentale, c'est justement avoir des troubles de la perception de son corps, c'est-à-dire vouloir non seulement contrôler son corps, la forme de son corps, mais aussi sa vie et son environnement. Et donc, effectivement, il y a ce qu'on appelle une dysmorphophobie, c'est-à-dire on ne voit pas son corps tel qu'il est. Mais aussi, dans le cas de l'anorexie mentale, c'est aussi dans une vision aussi pathologique, une vision de pureté. C'est-à-dire finalement de ressentir le corps, que ce corps maltraité, ce corps supplicié, dans cette vision de pureté.
Moi, j'ai ajouté, pour la première fois en 40 ans, l'année dernière, je me suis acheté des Barbies. J'ai commandé des Barbies sur Internet parce qu'ils avaient mis en marché, elles étaient disponibles, je ne pense pas qu'elles soient disponibles en France, elles ne l'étaient même pas au Canada, je les ai commandées aux États-Unis, il fallait vraiment être motivée. Mais on avait sorti des Barbies rondes, des Barbies plus petites, des Barbies, une série de Barbies asiatiques, des Barbies de différentes origines. Et donc, j'ai commandé des Barbies parce que je me disais, bon, il faut encourager ça. Et ce que j'ai reçu, en fait, leur Barbie ronde, si on regarde ses proportions, elle a l'air d'une femme moyenne. Elle n'est pas ronde du tout. Elle a juste l'air moins disproportionnée qu'une Barbie, une Barbie ordinaire. Et ce que je me disais, et je suis bien d'accord que l'anorexie ou d'autres comportements, d'autres troubles peuvent venir de l'intérieur, un rapport un peu tordu. Oui, mais la société est très... la société va vraiment appuyer ça. N'importe qui vous le dira, quelqu'un qui perd du poids, par exemple, avant même qu'on demande « Ah, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? » On va dire « Ah, mais félicitations, tu as perdu du poids. Ah ouais, ben j'étais malade, j'ai failli mourir, j'ai un cancer. Oui, c'est ça, j'ai un cancer. Merci des félicitations, mais je meurs la semaine prochaine. Ou alors je me suis fait vomir hier soir trois fois. » Alors, on a aussi un rapport assez particulier à l'apparence. On va conforter aussi les gens dans leurs attitudes. Et quand je regardais aussi ce panel-ci avant de venir ici, je me disais, ah, pourquoi m'a demandé d'être sur le panel? J'ai absolument aucune idée. Mais j'avais peut-être cette hypothèse qu'on avait associé le fait d'être gros au fait d'avoir des troubles alimentaires, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui peut avoir été le cas aussi, ça peut être des troubles alimentaires passés, mais on connaît aussi le rythme du métabolisme et on sait que des troubles alimentaires passés qui ont établi des situations de carence alimentaire mènent toujours à une reprise de poids aussi. Alors, ce n'est pas nécessairement des troubles alimentaires qui existent maintenant. Ça peut être des troubles alimentaires passés et qu'on porte aussi toute notre vie. Alors, il faut faire attention aussi entre l'association de l'alimentation et de la présentation corporelle.
Et si je peux me permettre, justement, c'est très important ce que vous avez dit, c'est-à-dire la question du surpoids est beaucoup moins problématique que des troubles du comportement alimentaire. Le problème du surpoids, bon, Je veux dire, justement, moi, quand j'avais fait ma thèse de médecine, c'est qu'on voulait absolument faire maigrir des gens qui étaient en surpoids. Et justement, les gens sont conditionnés. Il n'y a pas un jour où sur mon ordinateur, justement, je ne reçois des publicités pour maigrir. Alors bon, je n'ai pas besoin ou je n'ai pas envie de maigrir, mais je le reçois régulièrement. Et donc, quand on pousse les gens à maigrir alors qu'ils ne veulent pas, c'est là où il arrive des gros pépins et c'est là où il arrive des états dépressifs et des moments suicidaires. Je veux dire, les troubles du comportement alimentaire sont davantage en lien avec justement ces deux axes que je vous disais, l'axe alimentaire, c'est-à-dire ne plus s'alimenter non pas en fonction des sensations de faim ou de satiété, mais en fonction de croyances, en fonction de règles, et c'est là où on peut parler d'orthorexie. Vous m'avez évoqué, justement, on en reparlera, et qui sont liés à des règles et des croyances, des fois absurdes, hein, et qui ne sont pas liés au sentiment de faim ou de satiété. Et, comme je vous disais, l'autre axe, l'axe émotionnel, et on peut très bien faire du surpoids et tout à fait bien dans sa peau, avoir une bonne estime de soi, ne pas avoir la volonté de tout maîtriser. C'est aussi dans le deuxième axe émotionnel, ce sentiment profond d'une dévalorisation, d'une mésestime de soi, et puis qui vient contrebalancer, justement, comme je ne vaux rien, j'essaye de tout maîtriser, notamment mon corps.
Sachant que, si je peux lâcher une petite statistique, être obèse ne signifie pas nécessairement être malade. C'est-à-dire qu'on a montré que sur les syndromes, enfin sur la relation entre l'obésité et le diabète, ou le syndrome métabolique, il y a à peu près, je crois, 80% des personnes obèses donc, qui sont atteintes, enfin obèses morbides, qui sont atteintes justement de ces troubles-là, mais il y a 20% des gens qui ne sont absolument pas touchés. De la même façon, il y a des gens qui ont l'air très très fins, et qui en fait eux sont touchés par les problèmes de syndrome métabolique et diabète. Donc vraiment voilà, c'est le point que je voulais faire. Mais je voulais rebondir justement sur ce que tu disais sur la participation des médias à la construction de l'image de finesse. Mmh. Moi j'ai une question à nos deux auteurs de science-fiction. Et la science-fiction elle fait quoi? Est-ce qu'elle participe justement à nous démolir un peu notre image de nous-mêmes?
Oui, ben la science-fiction fait partie de la société. Hein? Mais on a beau essayer de décrire des sociétés futures, on est le produit aussi de notre société. Moi, quand j'ai vu cette question, je me suis dit, ah, la science-fiction est foncièrement anorexique. La science-fiction, c'est une généralisation, mais quand je pense à alimentation et science-fiction, je pense aux petites pilules nutritives qu'on apporte dans l'espace et qui sont censées nous laisser survivre pendant des années. Hein. On a le petit stock de pilules et l'on dose. Et puis, donc, la science-fiction est maniaque du dosage de l'alimentation. Maintenant, il y a autre chose. Là. Il y a aussi manger des cadavres transformés en pâte verte. Mais en fait, il y a un peu de tout. Mais moi, je voyais ça.
Bon appétit.
Puis je voyais aussi le rapport au corps dans la science-fiction aussi comme un rapport un peu toxique. Avec tout. Là, je pensais surtout au cinéma de science-fiction avec ses corps boostés, Ripley dans Alien ou... elle est moins boostée que les aliens suivants, il faut dire. Mais donc, ces corps un peu toujours à la limite là, entre la maigreur et la musculation.
Je ne sais pas si j'ai quelque chose à ajouter pour l'instant. Okay. Je pense que... Non, c'est parfait.
Mais du coup, en fait, j'aimerais faire le lien entre ce que tu viens de dire, notamment sur la SF et sur les alimentations de synthèse, et justement ce que vous avez dit, Rachel Bauchet, sur l'orthorexie. C'est-à-dire que les petites pilules magiques, c'est plus de la science-fiction. C'est-à-dire que tous les Français dans la salle ont sûrement vu les pubs et sont allés dans leur supermarché et sont tombés sur les espèces de bouteilles feed qui sont en fait de la nourriture en poudre, qui sont basées sur deux éléments. Enfin, les deux arguments vendeurs sont les suivants. La première, c'est vous faire gagner du temps. Vous n'avez plus passé une demi-heure à manger. Et la seconde, c'est du fast-food, oui, mais c'est du fast-food sain. C'est-à-dire que tous les macros et les micronutriments sont en bonne quantité. En plus, dans certains, ils vous promettent d'avoir des actions, alors ils appellent ça nootropique, je crois. C'est-à-dire qu'ils vous aident en fait à mieux fonctionner au niveau du cerveau, vous allez être plus focus, ce genre de choses-là. Et du coup, cette obsession du manger sain, est-ce que c'est justement devenu pathologique? Enfin, on en parlait justement sur l'orthorexie. C'est quand même relativement récent, ça.
À partir du moment où un comportement, parce qu'on pourrait dire, c'est ça qui détermine le trouble du comportement alimentaire. À partir du moment où ça devient obsédant et c'est l'unique préoccupation. Si on passe plusieurs heures par jour à acheter, trier, sélectionner, les repas, faire les repas, c'est là où ça devient pathologique, puisque ça devient exclusif d'autres intérêts nécessaires dans la vie, c'est-à-dire développer des relations affectives, développer des intérêts professionnels ou un avenir professionnel. Si c'est uniquement obsession sur l'alimentation, la différence entre ce qu'on venait de dire sur l'obésité, l'anorexie, l'hyperphagie, c'est là, la nourriture est obsédante en quantité, ou pas assez, ou trop, et sur l'orthorexie, c'est la qualité. C'est-à-dire, c'est un comportement névrotique centré sur la qualité. On est obsédé par la qualité des aliments, à tel point qu'on finit par être angoissé et par ne plus s'alimenter n'importe où. C'est-à-dire, on ne va plus manger ni au restaurant, ni chez ses voisins, ni chez ses amis, parce qu'on a peur de tomber sur une nourriture malsaine. Donc, ça peut aussi, c'est-à-dire comment une bonne habitude, si ça vient en excès, c'est-à-dire avec ces dictats, je dirais, il faut manger, je ne sais plus, c'est 5 ou 7 aliments par jour, ou 7 légumes, ou je ne sais plus, bref.
Je crois que c'est 5 fruits et légumes par jour, il me semble.
Oui, mais à force de dictats comme ça, on fait déraper des habitudes. N'oublions pas que l'alimentation, ça doit rester un plaisir ensemble, un plaisir avec d'autres. Pas un plaisir solitaire, un plaisir avec d'autres. Et c'est le plaisir de la rencontre, le plaisir de la nourriture, le plaisir de découvrir différents aliments. Attention à une obsession centrée sur une problématique qui peut à ce moment-là devenir déviant et entraîner quoi ? Des angoisses permanentes, des angoisses et des troubles, je vais appeler ça des TOC, des rituels pour rester dans la norme à tout prix. Et surtout, ne pas s'écarter. Si on s'écarte de la norme, donc à ce moment-là, il va se passer quelque chose. On va être angoissé, donc trouble du sommeil. Et puis, à ce moment-là, c'est là où il peut y avoir d'autres troubles, disons, qui sont psychologiques.
Mais il est à noter que c'est un des aspects très, très tristes du capitalisme. C'est que la façon de vendre un produit, c'est d'abord de générer l'angoisse chez le consommateur et d'offrir son produit comme solution. Vous êtes laid, mais cette pilule vous rendra beau. C'est ça. Et donc, pour la nourriture, c'est la même chose. Il y a facilement une perversion de l'information qu'on veut. Bon, oui, c'est vrai, c'est bien de manger des légumes, c'est pas une bonne idée de manger uniquement du pain et de la viande, mais là, ça devient, est-ce que vous avez pris vos doses quotidiennes? Il y en a deux dans ce petit tube, et c'est vraiment un moteur économique, hélas, et duquel on tend à dépendre.
Si je peux ajouter aussi, il y a aussi l'effet de la satisfaction immédiate, c'est-à-dire des alimentations qui ne sont pas un mode de vie, mais qui sont plutôt, on voit les magazines avant Noël, perdre du poids avant les fêtes, puis ensuite on a perdu du poids après les fêtes. Mais c'est toujours dans un court laps de temps, c'est toujours des habitudes à court terme. Et puis bon, quand il y a la nouvelle mode, on peut changer de type d'alimentation. Avant, on mangeait que de la viande. Après, on va manger que des carottes, par exemple. Donc, ou que de l'huile d'olive ou que des avocats. Il y a cette ruée-là aussi vers les produits miracles. Mais c'est vraiment pour des résultats à court terme aussi, qui sont aussi très, très néfastes.
Et tu parlais justement des magazines, mais il y a aussi tout ce qui est injonction paradoxale. C'est-à-dire que dans le même magazine féminin, à une page, on va te dire, perdez 20 kilos en faisant ça. En 6 mois, généralement c'est en 2 semaines, pardon. Et juste derrière, il y a, attention pour garder votre homme, surtout, faites-lui des bons petits plats et voici la recette du gâteau à 2 millions de calories. Donc c'est aussi quelque chose qui participe. Mais justement, on l'a dit, on a quasiment, enfin, beaucoup de gens, je ne vais pas dire tout le monde, mais beaucoup de gens se sont un jour posé la question de savoir comment perdre du poids. Pas tous, hein. Mais voilà. Et je pense qu'il y a une chose qui nous percute quand on commence à se renseigner sur la question, c'est OK, là j'ai 250 millions de messages différents et de conseils qui m'arrivent. C'est-à-dire que on me conseille de manger. Attendez, je ressors mes notes. On me conseille de manger sans gras, ou alors de manger bio, ou de manger au contraire un régime cétogène, c'est-à-dire sans glucides. Ou alors il y a le régime paléo qui est lui par contre sans céréales, sans produits laitiers. Ou encore manger végétarien, voire manger végétarien et cru. Certains vous diront que il faut jeûner. Ça revient beaucoup à la mode. Ou alors, c'est, il faut faire des cures de jus. Donc pendant 2 semaines, vous allez boire uniquement des jus différents. Ou alors, il va falloir manger certains aliments à certaines périodes. Toutes ces consignes plus ou moins sensées du point de vue scientifique et médical, est-ce que ça ne contribue pas justement à faire aussi clairement monter le stress et puis à nous rendre chèvres pour parler,
Si, parce que, disons, en fait, les médias envahissent notre vie. C'est difficile aussi de ne pas écouter ce qui se passe. Et c'est pour ça que quand on arrive sur des troubles du comportement alimentaire, j'insiste, au niveau de la pathologie, c'est plurifactoriel. C'est-à-dire, il y a des facteurs environnementaux, comme les médias, mais il y a des facteurs psychologiques liés à des troubles de la personnalité, et puis il peut y avoir aussi des facteurs physiologiques. Donc, il n'y a pas un seul coupable, j'insiste, ou bien souvent parce qu'on dit que dans le cadre de l'anorexie, 90% sont des femmes, et l'anorexie, c'est souvent le refus de son corps, le refus de son corps féminin. Donc, il faudrait aller chercher le coupable du côté de la mère, quoi, le refus d'une féminité. Et soit on s'inscrit, je m'inscris en faux. Quand il y a des troubles du comportement alimentaire, c'est plurifactoriel. C'est aussi bien des facteurs et physiologiques et environnementaux et des facteurs psychologiques avec des troubles de la personnalité chez des sujets qui se sentent fragiles émotionnellement, qui ont du mal à gérer leur stress, du mal aussi à assumer leurs choix. Et donc c'est aussi important de le dire parce que c'est quelque chose de beaucoup plus structuré que ça. Ça ne peut pas être seulement la lecture d'un magazine qui entraîne des troubles du comportement alimentaire. Et j'insiste parce qu'aujourd'hui, plus que des anorexies, on a ce qu'on appelle la boulimie-anorexie. La boulimie. C'est-à-dire avec les crises de boulimie qui sont des crises quand même très, très impressionnantes où les gens peuvent absorber des quantités de nourriture très importantes en un minimum de temps. Après, je dirais que c'est quasiment un champ de bataille autour d'eux, tellement ils ont avalé tout ce qui se passait. Mais c'est des crises très impressionnantes qui, après, génèrent un sentiment de honte, de dégoût, de culpabilité et qui va entraîner des vomissements pour justement garder ce fameux poids. Donc aujourd'hui, on est plus dans ces anorexies-boulimies, dans ces crises de vomissements qui sont extrêmement délétères parce que aussi entraînent des troubles métaboliques importants et puis une dénutrition importante.
Oui, on parle aussi, on parle de régime et tout ça, de trucs miracles, mais je me demande si la médecine n'est pas aussi un peu complice de tout ça parce que j'ai... Bien, tout à l'heure, je parlais des gens qui disent « Ah oui, tu as perdu du poids » sans vraiment poser de questions sur les causes. Bien, les médecins vont parfois faire ça aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image-là qui a circulé un peu sur Internet. C'est une femme qui arrive dans le cabinet du médecin qui dit « Ah, j'ai un malaise. » Et le médecin lui dit « Ah, mais il faut perdre du poids. » Et la dame a un poignard qui est en travers du corps. Alors, il n'a pas du tout vu le poignard, il a juste vu qu'elle devait perdre du poids. Alors, la médecine peut être aussi responsable de ça. Et moi, je suis aussi très, très préoccupée, sans faire de jugement, mais je suis préoccupée par rapport aux opérations bariatriques parce que oui. C'est aussi prendre un corps qui, oui, est en surpoids, mais c'est intervenir, c'est le mutiler, c'est enlever un morceau en se disant c'est bon pour la personne, ça va lui faire perdre du poids. Et si vous connaissez des gens qui ont eu cette opération, c'est vrai que c'est très spectaculaire selon le type d'opération. Mais d'abord, ce n'est pas éternel. Il y a une reprise de poids un peu. Puis il y a aussi des soucis pour la santé ensuite. On n'a pas encore beaucoup vécu avec le vieillissement de ces opérations-là, mais on peut voir déjà maintenant qu'il y a des carences. Les gens absorbent moins les vitamines, le fer et tout ça. Alors, je me dis, il faut vraiment... la médecine préfère mutiler un corps que de dire... De dire à la personne, mais oui, l'obésité peut être un problème, mais il y a aussi la sédentarité qui est le problème. Et là, je vais parler plus longtemps parce que j'ai autre chose à rajouter à ce sujet-là, parce que la sédentarité vient parfois aussi du fait que L'activité physique est culpabilisée chez les personnes en surpoids aussi. Rappelez-vous de vos cours d'éducation physique où la personne qui est moins bonne dans les sports est celle dont on se moque, dont on n'a pas du tout envie d'avoir dans son équipe. Alors, cette personne-là fait quoi? Ben, s'en va lire dans son coin et ne fait plus d'éducation physique, ne va plus à la piscine parce que, bon, comme vous disiez, j'aime beaucoup que vous disiez ça, c'est multifactoriel, vraiment.
Et je pense que, alors, disons, au niveau de la chirurgie bariatrique, c'est vrai que c'est compliqué. Disons, moi, je le dis parce qu'en fait, vous savez, on nous demande notre avis, c'est-à-dire que les chirurgiens, ils sont trop contents, ils disent, on va demander au psychiatre, finalement, s'ils se donnent le feu vert pour qu'on intervienne. Bon, c'est un peu facile, hein, quand même. Parce que qu'est-ce qui se passe? Moi, je me retrouve devant une personne qui se retrouve en surpoids important. Et je me suis retrouvée devant des gens qui sont très sympathiques et qui me disent, c'est pas possible, je peux pas rester avec 150 kilos, il faut m'aider et je n'arriverai pas à maigrir. Et ça, c'est une solution pour moi. Aidez-moi, disons. Et la chirurgie va m'aider à perdre d'un coup, c'est vrai, 50 kilos. Alors, je ferai attention, je vous promets, je ferai attention, parce que la vraie question, c'est la rééducation nutritionnelle. C'est toujours plusieurs choses. C'est la nutrition, c'est la relation aux autres, c'est les facteurs psychologiques, c'est les facteurs environnementaux. C'est toujours plusieurs choses, c'est pas une chose. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est très difficile de dire non. Alors, effectivement, sauf s'il y a des troubles majeurs psychologiques, des troubles sévères de la personnalité, si c'est un schizophrène qui veut se faire opérer, non, bon. Mais autrement, c'est une possibilité. Et il faut bien dire, dans cette possibilité, vous avez raison de le dire, si on ne fait pas attention par de nouvelles habitudes alimentaires, et comme je le dis, c'est important de manger aussi à plusieurs. C'est-à-dire pas de manger vite en un quart d'heure en buvant son truc. Bon, on peut le faire de temps en temps, mais ce qui est important, il faut retrouver les temps de convivialité alimentaire. C'est que ça qui permettra aussi de trouver un bon équilibre. C'est-à-dire, il faut retrouver le plaisir de manger. Bon.
Et, surtout,
et donc, c'est pour ça que je le dis, on donne un avis. Et quelquefois, c'est difficile aussi. S'il n'y a pas de raison évidente de contre-indication liée à une maladie grave, psychiatrique, je donne toujours un avis positif parce que je sais que ces patients-là, ils veulent aussi modifier leur corps. Et c'est trop difficile par des régimes alimentaires. La chirurgie aide 50 kilos d'un coup et après, je vous promets, je continuerai un suivi psychologique, un suivi nutritionniste, mais je ferai attention, mais aidez-moi. Voilà. Donc, je pense qu'il faut faire attention.
Par contre, ce que tu mettais aussi sur le tapis, c'est la question de la grossophobie. C'est-à-dire que, alors, je ne sais pas comment ça se passe au Canada, mais clairement, en France, il y a une parole qui se libère depuis quelques temps, et tant mieux. Mais grosso modo, enfin, on sait que les personnes en surpoids clairement subissent des préjugés. C'est un truc qui a été observé assez bien en fait sur des études qui ont été faites sur les enfants de 4 à 5 ans. Donc à cet âge-là, en fait, on est suffisamment grand pour bien avoir absorbé tous les préjugés et encore trop jeune pour avoir mis en place les filtres au niveau de la parole. Mais grosso modo, clairement, on voit qu'il y a des préjugés. Ça conduit justement, comme tu dis, à l'isolement social, au fait de plus aller voir les médecins. À rester chez soi, à rester de plus en plus enfermé. Donc, tout l'aspect social de la nourriture disparaît. Mais du coup, il y a aussi une réponse à ces discriminations-là, qui sont le mouvement de la fat acceptance, je crois que c'est comme ça que ça se dit, notamment aux États-Unis et qui arrive aussi en France. Du coup, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça peut aussi avoir des effets, entre guillemets, négatifs? Qu'est-ce que vous en pensez?
J'ai l'impression que c'est nécessaire qu'il y ait ce mouvement de balancier-là. Parce que le fait d'être réduit à l'état de paria n'encourage personne à se sentir mieux. Et oui, accepter le poids qu'on a et qu'on puisse choisir après ça, dire « Ah, ben là, je veux me mettre en meilleure condition physique, je veux perdre quelques kilos, si on peut », mais oui, de moins stigmatiser. Parce que ça revient à nous astreindre, parce que c'est pas juste la grossophobie, c'est pour lui, mais demain c'est pour moi et après ça, ça sera pour quelqu'un qui pèse 20 kilos de moins. Finalement, on est tous gros. Il y a peut-être une personne au monde qui a un poids acceptable et tous les autres, on est tous gros. On est tous méprisables, on devrait tous avoir honte.
On est tous trop gros ou trop maigres ou trop quelque chose. Et...
Oui, ben, je pense que ça peut... Parce que, bon, tout à l'heure, on disait que l'obésité peut mener au suicide, mais c'est pas l'obésité qui... Obésité n'égale pas suicide. Là, on va pas... C'est seulement dans un monde où ça peut mener à des soucis de santé, oui, mais ça ne veut pas mener à la détresse psychologique dans un monde où ce n'est pas considéré comme quelque chose de honteux ou qui doit changer, tout ça. Alors, je pense que oui, et pour tous les types de corps, en fait, ce n'est pas seulement pour... Il y avait le corps plus général dans le titre aussi, mais c'est vrai que aussi pour tout type de corps, des corps qui ne sont pas... genrés de la façon standard, les corps qui sont trop grands, trop petits, pas assez capables, qui ont des handicaps. J'espère en fait qu'on se dirige vers ce mouvement-là. Et ça ne veut pas dire, comme le disait Yves, que ça ne veut pas dire que tout le monde va soudain devenir gros et bon, on va niveler tout le monde par le haut. C'est simplement que les gens puissent être acceptés tels qu'ils sont. Ici, aux Utopiales, il y a toutes sortes de corps, hein? Et puis, bon, c'est bien de sentir que tout le monde est accepté. Et je pense que c'est une bonne façon aussi, ça peut même mener à des bonnes attitudes de santé, justement. Le fait d'être bien socialement, bien, ça peut mener au fait, justement, de manger en société, de ne pas nécessairement se cacher pour manger une grande quantité de nourriture, par exemple, ou l'inverse. Ça peut mener aussi à faire des exercices physiques parce que, bon, c'est acceptable aussi. Ça peut aussi mener à essayer de se trouver des vêtements pour faire les exercices physiques parce que, évidemment, si vous allez dans une boutique de sport, vous allez trouver des vêtements de sport qui sont seulement faits pour des corps minces. Alors, il faut perdre du poids avant de faire du sport, selon la société. Moi, je trouve ça un petit peu mystérieux.
Tu sais qu'il y a une petite initiative. Alors, j'ai vu ça, je crois que c'est à Paris, mais je ne suis pas sûre. Mais il y a des salles de sport qui sont réservées uniquement aux personnes en surpoids. C'est-à-dire qu'en fait, passer un certain IMC, ouais, voilà, c'est ça. En fait, en dessous, on peut plus accéder à la salle. C'est-à-dire que voilà, il faut. L'idée justement est là, c'est pour décomplexer justement les personnes en surpoids de faire du sport. C'est que là, vous pouvez dire, venez comme vous êtes. De toute façon, tout le monde est en surpois, donc personne ne se formalise.
J'ai un malaise. Ça veut dire que les personnes qui ne sont pas en surpoids, on les préserve de la vue de ces corps gros
oui,
en train
aussi,
de s'entraîner.
Aussi,
oh non, j'ai
d'accord.
Vraiment beaucoup de réserves.
Je pense que c'est très mauvais. C'est comme, disons, on met les vieux à l'écart dans des EHPAD, on met les gros dans des salles de sport, machin, on met les noirs là, on met les juifs là, on met les francs-maçons. Je pense que cette société-là, elle n'est pas intéressante. Ce qu'on veut, c'est essayer de vivre ensemble, chacun avec ses particularités. Justement, les gens n'ont pas le même caractère. J'aurais tendance à dire, justement, quand on n'a pas le même poids, on n'a pas le même caractère. Et c'est assez intéressant, justement, de pouvoir dialoguer ou de pouvoir échanger. Et ça me semble être tout à fait dramatique de pouvoir séparer. C'est pareil, les gens qui sont très minces, c'est pas bien de les mettre à l'écart. Il faut qu'ils se rendent compte que les images du corps peuvent être différentes. Et que ça peut être harmonieux, c'est-à-dire ça peut être harmonieux d'être aussi en surpoids que ça peut être disharmonieux d'être trop maigre. Et on voit au niveau des mannequins, parce qu'il y a eu des scandales hein, sur les mannequins, il y a deux grands scandales, c'est les mannequins et puis les sportifs. Dans certains sportifs de haut niveau, sur l'escrime, la danse, on leur fait subir des luttes infernales sur le poids. Et on voit bien que ça doit changer. Ça doit changer, c'est-à-dire on ne peut pas continuer à mener des luttes incessantes, c'est-à-dire autrement, ça entraîne des exclusions massives de ces personnes-là.
Et merci. Comme quoi. Par contre, je reviens sur la stigmatisation justement des personnes en surpoids. En réfléchissant un peu à la chose, je me suis rendu compte que c'était quand même fondé sur quand même l'idée que l'obésité relève uniquement de la responsabilité individuelle. C'est-à-dire, en gros, si je la fais court, ce n'est pas mon opinion. Si vous êtes gros, c'est parce que c'est de votre faute. C'est parce que vous faites preuve de deux péchés capitaux qui sont la paresse et la gourmandise. Donc, c'est très judéo-chrétien comme point de vue. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a en France avec, vous savez, toutes les pubs alimentaires où il y a un manger-bouger. C'est vraiment en mode, voilà, faites gaffe à ce que vous faites, quoi. Mais du coup, enfin... typiquement, voilà, la notion du fait que l'obésité soit uniquement liée à la responsabilité personnelle, c'est pas l'épreuve des faits quand on s'intéresse un petit peu aux choses. Parce que, par exemple, aux États-Unis, il y a une épidémie assez violente de nourrissons qui sont obèses. Donc, quand je parle de nourrissons, je parle de nourrissons de moins de 6 mois. C'est-à-dire que là, on peut difficilement reprocher à un bébé qui vient de naître, qui bouge pas assez et qui mange trop. Pareil, il y a aussi tout un aspect, par exemple, économique. C'est-à-dire que, clairement, il y a une énorme prévalence de l'obésité, une grosse corrélation entre l'obésité et le niveau de vie. En gros, plus votre revenu est important, moins vous avez de chances d'être obèse. C'est assez flagrant. Pareil, on a d'autres cas où c'est sociétal. C'est que, par exemple, au Brésil, il y a des coins du pays où les gens n'ont plus accès à l'eau. Pourquoi ? Parce que l'eau a été complètement accaparée par la société Coca-Cola, qui la revend, mais sous forme de soda bien sucré. Donc du coup, c'est assez peu... la notion de dire, c'est purement une responsabilité individuelle est assez fausse au niveau des faits. Par contre, ce dont on est certain, c'est que les conséquences, elles sont collectives. D'accord ? Alors, je me suis un peu intéressée, donc malheureusement, je n'ai pas les chiffres pour le Canada, mais en France... les conséquences justement des maladies liées au surpoids, c'est 5 milliards d'euros par an pour la société, pour la sécurité sociale. Du coup, je vais profiter du fait que
là, c'est une culpabilisation excessive pour les obèses.
Ah non, alors c'est pour le coup, c'est vraiment pas le justement. C'est-à-dire que c'est pour ça que justement que j'introduis le fait que la responsabilité, elle est collective, je pense. C'est pour ça que je ne culpabilise personne. Mais voilà, par contre, c'est un problème qu'il va falloir traiter. Donc la responsabilité est commune et je pense qu'il va falloir le traiter ensemble. Et justement, pour une fois, j'ai profité du fait que quelque chose qui n'arrive quasiment jamais pour moi, j'ai une femme politique à ma disposition. Et du coup, on voit bien l'importance des politiques publiques. J'aimerais prendre juste quelques minutes pour raconter une petite histoire. Alors, avant de commencer cette histoire, j'aimerais préciser une chose. On est aux Utopiales, c'est un festival sérieux. Je ne suis pas complotiste et ce que je vais dire est sourcé. N'hésitez pas à me demander les sources. Cette petite histoire, c'est l'histoire d'Ansel Keys, de la relation qui existe entre le gras, le cholestérol et les crises cardiaques. Donc, pour faire une petite histoire, à partir des années 1920, aux États-Unis, il y a eu une augmentation assez drastique des crises cardiaques et des morts par crise cardiaque. Ça a culminé en 1955 avec la mort du président Eisenhower par crise cardiaque. Et là, la lutte contre les crises cardiaques est devenue quasiment une cause nationale. Ce sur quoi est arrivé un chercheur très charismatique, le professeur Ansel Keys, qui a été persuadé que la consommation de gras conduisait à l'augmentation du cholestérol et que l'augmentation du cholestérol augmentait les chances de mourir de crise cardiaque. Pour justifier son point de vue, il a publié une étude qui s'appelle l'étude des 7 pays. Parallèlement à ça, l'industrie du sucre a payé des chercheurs pour faire penser que l'influence du sucre était sur les maladies cardiaques et sur l'obésité était beaucoup plus faible que ce qu'elle était, et pour surtout bien basculer la faute sur les lipides et sur le gras. Il y avait d'autres sons de cloche, puisqu'il y a eu un chercheur qui s'appelait, je crois, Aaron Yudkin, qui lui disait attention, apparemment c'est pas le gras, c'est plutôt le sucre qui pose des soucis. Et en 72, il sort son étude, et alors là, par contre, il est complètement ridiculisé par toute la communauté scientifique. Parallèlement à ça, toujours, toutes les autorités américaines de santé, notamment l'USDA, avalent pour argent comptant les idées d'Ansel Keys et mettent à jour les guidelines alimentaires. Typiquement, la pyramide alimentaire, c'est de là que ça vient. Vous savez, le fait qu'il faille manger beaucoup de féculents, un peu de légumes et de fruits, des légumes et des fruits, un peu de viande et produits laitiers, et surtout très peu de gras. Ça vient de là. Ces guidelines-là, elles ont été introduites en 1977. Et à partir de 1980, on observe, sur la courbe de l'évolution de l'obésité aux États-Unis, une explosion de la vitesse de propagation du diabète et des maladies associées. Depuis, on a démontré qu'il n'y avait strictement aucun lien entre le cholestérol, entre le fait de manger des produits gras, notamment des graisses alimentaires et le cholestérol, et qu'il n'y avait aucun lien entre le cholestérol et les crises cardiaques. Par contre, on est encore en train de traîner quelques-unes de ces guidelines alimentaires-là. Donc du coup, ma question, pour vous, c'est-à-dire comment font justement, comment fait le corps politique pour sélectionner correctement ces informations et pour faire des choix justement éclairés de gain alimentaire. Parce que clairement, ça a une influence, on l'a bien vu, c'est-à-dire que le fait d'avoir modifié ces gains-là a clairement eu un impact très négatif. Et du coup, comment vous faites pour choisir les informations, les traiter, naviguer aussi un petit peu, malheureusement, entre les lobbies, hein, c'est le genre de choses qui arrivent, et prendre les bonnes décisions pour les politiques alimentaires et sanitaires.
Alors, en France, la politique de santé se fait à Paris. C'est totalement centralisé. Les villes, alors moi je suis élue municipale, n'interviennent très peu, n'interviennent sur la prévention, donc peuvent intervenir sur les cantines scolaires, peuvent intervenir sur des programmes d'éducation, mais pas plus que ça. Et donc, disons, à Paris, le ministre de la Santé s'entoure de différents experts, différents comités scientifiques. Et donc, les choses ne se font pas un peu au hasard, quoi. Je dirais que c'est souvent, contrôlé. En plus, il y a la Direction générale de la Santé qui a à cœur de travailler sur ces domaines-là. Alors, on le sait bien, aujourd'hui, le problème de l'alimentation est un problème majeur. Sur les problèmes d'obésité et de surpoids, il y a quand même des problèmes aussi de génétique. C'est pour ça, quand on disait le problème plurifactoriel, bien sûr qu'il peut y avoir le fait qu'on est mal nourri parce qu'on s'alimente mal, mais souvent, il y a aussi des problèmes relationnels, c'est-à-dire familiaux, où on ne se met plus à table. Par exemple, aux États-Unis, c'est caricatural. En France, ça commence à venir. Moins on se met à table, plus on mange et plus on mange mal. Il y a les problèmes donc affectifs, on l'a dit, émotionnels, et puis il y a les problèmes génétiques. Il y a, disons, surtout sur les problèmes de surpoids, on ne fera jamais maigrir quelqu'un qui fait 150 kilos à coup de régime, ça ne marchera pas. Donc, je crois qu'il faut être très mesuré et bien peser ce qu'on met en œuvre comme perspective pour savoir sur quoi, quelle est la bonne cible. Il n'y a peut-être pas qu'une seule cible, comme je le disais, il y a plusieurs cibles. Et bien sûr, que ce qui est important, aujourd'hui, il y a de plus en plus, on dit, de troubles du comportement alimentaire. Mais pourquoi il y en a plus? C'est parce qu'on fait de la prévention et parce qu'on les repère plus tôt. Donc, en fait, on les note de plus en plus. Mais je crois que c'est important, c'est d'intervenir très tôt et dans l'éducation des enfants, dans l'éducation à l'école, à l'école, dans les cantines scolaires et donc dans tous les lieux collectifs de pouvoir se saisir. Mais je crois que la grosse faute serait d'attaquer sur un coupable, un aliment ou un régime particulier. Il y a différents régimes, c'est vrai que maintenant ça fleurit, que ça soit végétarien, végétalien, végan et tout, mais je crois que le gros tort, c'est d'axer sur un seul régime.
Les villes ne déterminent peut-être pas les politiques alimentaires, mais je pense que les villes nord-américaines auraient peut-être intérêt à s'inspirer des systèmes de transport en commun des villes européennes, comme Nantes. Moi, j'adore venir à Nantes parce que Nantes est une ville où on peut marcher. C'est simple, c'est presque, je dirais, doux pour le corps. C'est naturel de marcher à Nantes, d'autant plus qu'il y a un système de transport sur lequel on peut s'appuyer si on a besoin de prendre le... Alors que les villes nord-américaines, on le sait, avec les distances même entre les avenues, nécessitent constamment l'utilisation de la voiture. On va s'acheter un pain en voiture, tout se fait en auto. Alors, je pense que les politiques de transport sont quand même très... ont un impact très fort sur la santé. Et pour ce qui est des différences entre la France et l'Amérique du Nord, il y a effectivement les différences génétiques. On dit souvent que on donne des moyennes d'obésité aux États-Unis comparées à la France ou à d'autres pays d'Europe. Mais génétiquement aussi, les populations afro-américaines sont plus prédisposées à l'obésité parce que il y a eu une sélection, malheureusement, aussi de la population. C'est les personnes les plus résistantes qui ont survécu à l'esclavage. Même chose pour les populations autochtones amérindiennes. C'est aussi les populations... Ben, c'était déjà des populations capables de résister à des climats nordiques et qui se retrouvent plongées aussi dans un mode de vie plus sédentaire, avec une alimentation plus... qui convient moins aux exercices de maintenant. Alors, tout ça se mêle. On revient toujours, en fait, à la même question.
Par rapport à ça, il y a le concept d'un désert alimentaire qui s'applique surtout en Amérique du Nord, parce que, justement, tu parlais, Marion, de la, la corrélation entre le surpoids et le niveau de vie, les revenus. Pour une partie de la population de villes américaines qui vit dans le centre de la ville, les endroits où on peut s'acheter de la bonne nourriture sont très loin. Alors, ils n'ont pas de voiture, ils ne vont pas y aller, il n'y a pas de transport en commun pour s'y rendre. Alors, ils se rabattent sur des sources de nourriture plus proches, mais qui sont, oui, qui sont très caloriques, mais pas forcément idéales. Donc, c'est plus facile de s'alimenter au 7-Eleven, de prendre des croustilles, d'aller à un McDo, mais oh, si tu veux t'acheter une salade verte, ben là, non. Oublie ça, tu n'as pas les moyens. Et ça donne une perversion de justement, je suis pauvre, donc je mange trop, je suis trop nourri. Ce qui est un peu absurde, mais c'est ça.
Et surtout, ce que tu dis, c'est, ce qui est intéressant, c'est que non seulement on mange, dans des pays développés comme les États-Unis, on peut être à la fois en surpoids et mal nourri. Dans le sens où, par exemple, il y a une maladie qu'on pensait clairement éteinte dans les pays développés, qui est le scorbut, par exemple, qui fait sa réapparition. Le scorbut, pour s'en prémunir, il suffit de manger de temps en temps des légumes. C'est-à-dire, pas forcément des citrons et des oranges, hein, mais juste du brocoli, ça marche très bien. Et voilà, donc c'est clairement ça. C'est, oui, on se trouve à des situations où, oui, on peut être, dans ces déserts alimentaires-là, on peut être vraiment gros, en surpoids et mal nourri. Du coup, ce que je pensais faire, il nous reste quelques minutes. Je pense laisser la parole pour les questions. Est-ce que quelqu'un en a ? Oh non, pardon ? Est-ce qu'il y a des questions ?
Oui, oui, il y a une queue.
Ah, oui, il y a une dame.
Une technique ici. C'est dommage, je n'aurais pas parlé de nourriture en science-fiction. Ça sera pour une autre fois. Malheureusement, mais le sujet est assez vaste.
Malheureusement, le sujet est très vaste, oui.
Bonjour, vous parliez de comment on peut tomber dans les troubles alimentaires, mais j'ai une connaissance que j'ai toujours vue plonger dans l'anorexie, avec, comme vous disiez, des crises aussi de boulimie très fortes. Et aujourd'hui, elle a réussi à s'en sortir, principalement grâce au sport, qui est quelque chose de très important pour elle, mais aussi grâce à son éthique pour l'alimentation végane. Et vous, dans votre expérience, principalement de psychiatrie, est-ce que vous avez eu vraiment des patients qui ont eu un changement très fort d'un coup ? Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour aider les gens à se sortir de ces troubles alimentaires, principalement anorexiques ?
Disons, je vais vous dire, oui, on soigne, oui, je soigne, et oui, on a des bons résultats, hein, bien sûr. Ce qui est difficile, le plus difficile, c'est de convaincre les sujets qui sont atteints ou d'anorexie mentale ou de crise de boulimie de se faire soigner. À partir du moment où ils sont d'accord, déjà on a fait un grand pas. C'est le consentement à changer d'alimentation ou à changer son regard sur le rapport à l'alimentation. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, c'est plus en fonction de ce qu'on ressent, mais en fonction de règles et de croyances. Alors, bien sûr, on a, oui, des bons résultats, mais le risque, c'est qu'il y a souvent des rechutes. Donc, il y a tout un dispositif, souvent on hospitalise, avec différents axes. Souvent, ça se passe sous forme de groupes. Il y a des groupes axés sur le comportement alimentaire, des groupes axés sur les thérapies familiales, des groupes axés sur la psychoéducation, l'éducation nutritionnelle. Et oui, on arrive tout à fait à dépasser ces comportements qui sont des comportements délétères pour l'individu, mais on arrive à partir du moment où le sujet reconnaît aussi le caractère pathologique de sa relation obsédante à l'alimentation et de sa volonté à vouloir maigrir à tout prix. Donc, bien sûr, on y arrive. Alors après, disons, au niveau des régimes, c'est pour ça que moi, je ne suis pas végétarien, végétalien, vegan ou quoi. Je veux dire, je crois que ça, c'est la liberté de chacun. Et c'est pas, il n'y a pas dans le salut, dans un régime particulier, comme je vous l'ai dit, c'est ce rapport pathologique à l'alimentation qui fait qu'on est dans le rapport au corps en fonction des croyances ou des règles alimentaires et non plus en fonction de ses sensations. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de revenir à ces sensations, à ces émotions corporelle qui renvoie aussi, comme je l'ai dit, à sa gestion des émotions. C'est-à-dire, quand on essaye de maîtriser son corps, quand on essaye de maîtriser ses émotions, c'est parce qu'on a peur d'avoir accès à des émotions négatives, à de l'anxiété, à de la dépression, de la mauvaise estime de soi. Donc c'est là où on fait tout un travail de revalorisation de soi, de revalorisation narcissique. Mais bien sûr, on a de bons résultats.
Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Une dernière, peut-être ?
Bonjour. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de différentes maladies alimentaires. Est-ce que vous pourriez approfondir le sujet en les citant et en disant globalement ce que c'est, s'il vous plaît ?
En deux minutes ? Non, mais si vous voulez, globalement, moi, j'ai dit les grandes catégories. L'anorexie mentale, c'est pas seulement une anorexie, mais c'est-à-dire c'est une façon négative de percevoir son corps, c'est-à-dire une dysmorphophobie. Il y a les crises de boulimie qui vont de pair avec des vomissements incoercibles pour garder le poids. Et donc, ces crises de boulimie qui sont des crises dramatiques, hein, puisque le patient peut manger tout ce qu'il y a dans la maison, il peut sortir, acheter des tonnes de nourriture et après extrêmement malheureux. Donc derrière ce comportement alimentaire, on voit qu'il y a surtout des troubles, on va dire, psychologiques. Et la troisième grande catégorie, c'est la boulimie hyperphagie, où en fait il y a des crises de boulimie mais sans vomissement, et donc qui entraîne un surpoids, une obésité. Et je dirais que dans la plupart du temps, ça atteint souvent les femmes pour l'anorexie, la boulimie. La boulimie hyperphagie, c'est autant les hommes que les femmes. Et souvent, ça commence au moment de la puberté, souvent dans la reconnaissance aussi de la discrimination de son corps sexué. Et donc dans le refus d'accepter aussi cette identité sexuée, mais qui renvoie aussi à la relation que le jeune, l'adolescent, a dans son univers familial. Mais j'insiste bien, je réinsiste sur le fait que c'est pluriel, qu'il y a toujours plusieurs facteurs qui sont à l'origine de ça. Et donc au niveau des traitements, je crois, comme je vous l'ai dit, ce qui est important, la première chose, c'est d'accepter de changer, d'accepter qu'on s'occupe qu'une équipe s'occupe de ce problème alimentaire, ne pas rester seule dans cette honte et cette culpabilité, surtout par rapport aux ces problèmes de vomissement. Ce qui est au cœur, c'est le secret, c'est-à-dire je fais des crises de boulimie, je vomis, mais je veux surtout que ça ne se sache pas. Si on commence à le savoir, aussi bien dans l'anorexie que dans la boulimie, c'est important, le fait de le savoir, on peut aider. Et non seulement, il faut dédramatiser. Le secret, il faut le faire tomber. Il faut aller aussi vers des équipes qui peuvent les aider, parce que les équipes en addictologie et en psychiatrie connaissent parfaitement les moyens de dépasser ces troubles du comportement alimentaire. Mais comme je dis, le plus grand ennemi, c'est soi-même. C'est-à-dire qu'il faut arriver à dépasser son ambivalence et accepter de changer. Et bien comprendre que derrière le problème alimentaire, il s'agit d'autre chose.
Je vous remercie. Je pense que ce sera le mot de la fin. Donc je vous remercie beaucoup pour votre intervention qui a été très intéressante. Vous pouvez retrouver Yves Ménard et Sylvie Bérard en dédicace juste après cette table ronde, et je vous souhaite une excellente journée.